Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, nous voilà partis pour un contre-histoire particulièrement festif en ce grand jour. Cette évocation d'une des plus glorieuses pages de notre histoire, nous la devons à Pierre Perret. Il fallait que je vous en prévienne à cause de son vocabulaire qui vous fera, j'espère, une jolie fête. Je m'en vais vous conter l'histoire du Parpaillot et de la Marie. Enfin, le voilà, Henri, quatrième de la lignée des Henri, le plus célèbre, le plus populaire des rois de France. Le Vert-Galant, on l'avait surnommé. Parlant un jour de son formidable joujou des demoiselles, il prétendit sans rire que jusqu'à l'âge de 40 ans, il avait toujours cru que c'était un os. L'os de Dionysos, comme nous l'a précisé par la suite notre éminent collègue Christian Laborde. On peut raisonnablement accréditer cette naïve conviction de l'Henri, car ses maîtresses, pour la plupart des cordons bleus, ont prouvé qu'elles accommodaient fort bien cet os avec le tourne-dos. Henri, fils d'Antoine de Bourbon, qui adorait le bénitier de Calcif, et de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et protestante jusqu'en haut des jarretières, Riton fut roi de France de 1589 à 1610. Mais n'anticipons pas. Le Béarnais, à sa naissance, ne ressemblait en rien au fils de Henri II. De petits avortons incapables de soulever eux-mêmes leur biberon. Le papa de sa maman, Jeanne, son papy, bouffi d'orgueil d'avoir un petit-fils futé comme les mouches, se serait écrié « Ma brebis a enfanté un lion !» En guise de biberon, il lui avait passé une gousse d'ail sur les labiales et fait goûter un gorgeon de Jurançon. Le petit, alors, entendant sa coupe, proféra pour la première fois cette courte supplique qu'il adressa si souvent par la suite à ses maîtresses lorsqu'elles lui chatouillaient l'arquebuse. Encore ! Il saccagea, dit-on, les tétons de 8 nourrices avant d'en trouver enfin une paire à son goût. Son étonnante carrière amoureuse le prouva assez, c'était un sacré goûteur de tétons. Mouflet, il reçoit une éducation plutôt insolite pour un futur monarque. Il court la campagne en se bigornant avec ses copains qui sont pas plus nobles que vous et moi. Il déniche des nids de pie, joue à papa-maman avec les bergères et rentre le soir à la casbah avec des troupes linçons falzards. Il se fait remarquer très vite, car parmi tous ses potes, il est le seul à avoir déjà joué du flageolet béarnais. De plus, c'est lui qui pisse le plus loin. Il a vraiment tout pour faire un bon roi. Nommé lieutenant général du royaume en 1560, il se retrouve au Louvre, où il fait poêler les courtisans en leur demandant pourquoi ils ont toujours l'air d'avoir avalé un pébroc quand ils discutent entre eux de la couleur de leur ruban. Plus tard, il pouvait passer aisément 18 heures d'affilée sur son cheval sans en descendre pour aller s'acheter des clopes. L'ennui, c'est qu'il faisait souvent la même chose avec ses maîtresses. Il n'était pas rare, d'ailleurs, que ces dernières, lassées, partent en quête de Jules plus reposant. Car avant la chasse et la guerre qu'il pratiquait assidûment, le plus favori de ses passe-temps demeurait incontestablement le bilboquet béarnais à changement de vitesse. Il fut d'abord heureux, puis dérouilla un max avec une flopée de pétasses qui le cocufièrent avec un grand dévouement. La plus célèbre d'entre elles fut Gabrielle d'Estrée, dite la belle Gabi, à laquelle il adressait des bafouilles incandescentes. Annonçant son arrivée pour la semaine suivante, il demandait à sa Gabi de se garder bien, d'astiquer son fri-fri en l'attendant, afin, disait-il, de mieux savourer ses fragrances naturelles. Il s'arracha les poils du cul et dépensa une fortune pour coucher dans son lit Henriette d'Entraigues, dite la dévoreuse, qui lui fouettait le raisiné avec des décoctions aphrodisiaques et des tartines de gelée royale. Diplomate et rusé, homme de guerre habile, durant son règne, il mit vaillamment le grappin sur la Normandie, l'Auvergne et le Poitou, entre autres, jugeant que cet éparpillement des provinces faisait un peu désordre. En attendant d'être le roi de France, il convole pour la première fois en juste et pauvre noce avec Marguerite de Valois, qui va devenir la fameuse reine Margot. Brantôme, d'ailleurs, l'un des innombrables Jules de Margot, dans le portrait qu'il fait d'elle, y va carrément à la truelle. Jamais déesse ne fut plus belle, si bien que pour publier ses beautés, ses mérites et ses vertus, il faudrait que Dieu allongeât le monde et haussât le ciel plus qu'il n'est. Bref, pour lui, la môme Margot, c'est une magnifique Rolls. Pour Henri, c'est une superbe salope. Margot, qui, toute jeunette qu'elle était, venait par un beau matin de se faire ravir son berlingue par son propre frère Henri III. Ils étaient tous deux les mouflets de Catherine de Médicis et de Henri II. Ce qui ne l'empêchait pas, malgré tout, la mignonne, de passer ses après-midi dans le pajot du bel Henri de Guise, dit le balafré. Le roi Charles IX, l'autre frelot de Margot, et Catherine de Médicis, sa mère, qui tenait le gouvernail de la France, accordait beaucoup d'importance à ce marida entre Margot et le jeune Henri, roi de Navarre. Ce dernier, de religion protestante, était censé par cette union se rapprocher des catholiques et pourquoi pas cesser de se fricasser la hure avec eux. Ce fut hélas une tragique cata. La môme Margot, qui avait le feu aux dentelles pour son Guise, détestait ce rusto de Henri de Navarre, qui tapait sérieux du saladier. Après une crise de nerfs carabinée, elle se laissa tout de même conduire à Notre-Dame pour le marida. Sa mère, Catherine, avait d'ailleurs fait frapper pour l'occasion une médaille en or, avec les initiales H et M entrelacées, et une devise en latin gravée sur le bord. La discorde réunie est éteinte par ce lien. Il faudra tout de même, lors de la cérémonie, que le roi Charles IX file un coup de coude dans les côtes de sa frelotte pour lui faire baisser sa cafetière en guise d'assentiment, à défaut d'articuler le « oui » fatidique, comme on l'a bien vu dans le film « La reine Margot ». Le soir des noces, où Margot chialait comme une femme de chef de gare le jour de congé de son époux, il semble que le zizi-pampan l'eût emporté tout de même sur la mélancolie. Bien que ce ne fût pas le grand amour entre eux, Margot, d'un ton léger, répondra plus tard au juge ecclésiastique qui lui demandait si le mariage avait été consommé. Nous étions tous deux au jour des noces, l'un et l'autre si paillards, qu'il était plus qu'impossible de nous en empêcher. Quant à Henri, il répondit semblablement de son côté. Jeunes tous deux et de tempérament gaillard que nous étions, la reine et moi, pouvait-il en être autrement? N'empêche que, hormis les séances d'abricots en folie, Margot avouera bien plus tard. On a été 7 mois couchés ensemble, sans s'entreparler. C'était mal barré. Le jour de la funeste Saint-Barthélemy que Catherine fit déclencher par le bras de son taré de fils Charles IX, on étripa joyeusement tous les protestants. Et les autres, qui avaient accompagné le futur Henri IV à son mariage. Ce dernier, qui eut très chaud aux miches ce jour-là, ne dut son salut qu'à sa promesse à Catherine et à Louis de se convertir au catholicisme. Charles IX lui avait laissé le choix. Metz, mort ou Bastille? Des milliers de cadavres s'amoncelaient au tournant de la Seine, devant la colline de Chaillot. Henri n'eut aucune hésitation pour abjurer spontanément la foi huguenote quelques jours après, agenouillée devant l'autel de Notre-Dame. À ses potes qui lui ont dit plus tard « Dis donc, Riquet, tu crois pas que t'as fait un peu fort en te convertissant? Es-tu bien sincère en devenant catho ?» Henri IV répondit « Goguenard ?» Il répondit quoi ?« Bah, Paris vaut bien une messe. » En fait, malgré son air enjoué, on se gourait bien qu'il était mort de trouille. Henri, forcé de rester à la cour au milieu de ses branques, se voit contraint par Catherine, la belle d'Auch, de faire partie de l'expédition royale menée contre la forteresse calviniste de La Rochelle. On lui demande, ni plus ni moins, de trucider les siens. Ces derniers, d'ailleurs, n'ignorant pas que Riton n'a abjuré sa foi qu'avec l'épée dans les rognons, demandent même au-dessus des remparts de la forteresse des nouvelles de leur roi de Navarre. Henri vise, dira-t-on, l'ennemi avec son arquebuse à mèche, mais nul n'est vraiment sûr qu'il l'avait allumé. Sacré Riton. Il ne dira sans doute pas, mais il avait sûrement par contre une forte envie de se tirer. Ce qu'il fit. Il attendit tout de même 1575 pour s'enfuir, reprendre la tête de l'armée huguenote et se rétracter de son abjuration en passant à Tours. Un jour qu'il cavalait au cul d'un cerf dans une partie de chasse dans la forêt de Senlis, il en profita pour mettre les bouts. Il rejoignit tranquillement le Poitou où l'attendaient les troupes calvinistes. En tant que catholique, bien sûr, il n'avait pas été très convaincant. Les hostilités reprennent donc dès 1577. Margot est restée à Paname. Elle ne le rejoindra que plus tard dans le sud-ouest. Pour lui adoucir le séjour, comme on pense. Il casse du catholique à La Réole, à Marmande, à Bergerac, bref, partout où les catholiques avoisinaient les protestants. Le bon Riton a tout de même morflé quelques torgnoles dans le sud-ouest. Les cathos lui en ont fait baver un max, notamment à Cahors, où il fut supplié par ses troupes affamées et épuisées de faire sonner la retraite. « Il ne sortirait de Cahors, leur répondit-il, que mort ou vainqueur, au cas où on aurait douté qu'il avait du poil aux pattes. » Margot, elle, pendant ce temps, faisait sa guerre des amoureux à la cour protestante de Nérac. Henri, qui venait y savourer le repos du guerrier, se laissait gentiment butiner le macaroni par la belle fausseuse, nom sous lequel on désignait Françoise de Montmorency. Cette dernière, dont le réchaud fumait en permanence, n'était autre que la première demoiselle d'honneur de Margot. Margot, qui, l'ayant trouvée elle-même à son goût au lit, l'avait généreusement prêtée à son sacré bandeur de mari. Ils avaient fini par s'entendre au moins sur un point. Jusqu'au jour où le duc d'Anjou, frelot d'Henri III, se casse la margoulette en escaladant le mur d'un couvent de nonnettes. Notre bon Riton de Navarre s'élève alors tout naturellement au rang d'héritier de la couronne et s'achète un chapeau neuf. Les cathos sont alors furibards. Le duc Henri de Guise, dit le balafré, l'ex-julot de Margot, qui se prétend descendant de Charlemagne et qui, entre parenthèses, ne cracherait pas, lui non plus, sur la couronne, a juré de faire tapisser sa malle de voyage avec la peau de Henri IV. Tous ces sacs de nœuds débouchent sur ce qu'on va appeler la 8e guerre civile ou guerre des trois Henri. En attendant, notre Henri de Navarre, à Coutras, file une belle décoction à Joyeuse, le mignon de Henri III, qui aura vachement chaud aux miches ce jour-là. Mais Henri, futur IV, n'a pas encore fini de becquer son pain noir. Le duc de Guise est adoré du peuple. De plus, il ne peut pas encadrer le roi Henri III non plus. Il a presque le cul sur le trône en cette année 1588, où il se voit d'abord déjà roi de Paris. Mais la couronne est à sa portée, il le sent. Il se la voit déjà sur la théière. Henri III, lui, de son côté, qui est en train de se casser la gueule de son trône, a fait appel à des détachements étrangers pour conforter son autorité. Et bien sûr, il a provoqué une Bérésina monstre. Ça donnera des idées aux communards. Les parigots, ça leur plaît pas l'herche, les étrangers, sauf pour vider les poubelles. Henri III décarre alors à toute bubure de la capitale, après cette funeste journée des barricades, où l'on s'est copieusement frité le chetron. À l'heure qu'il est, à l'ATP des rois, il vaut plus un peu de lapin, le troisième Henri. Il n'a plus les moyens d'empêcher le balafré de Guise de lui piquer le trône encore chaud. Ce dernier pourrait d'autant plus s'en emparer illico qu'il a le parlement pour sa pomme. Pourtant, orgueilleux comme un pou dans la crinière d'un lion, il minaude, il temporise. Il sent qu'il est proche du but, mais il veut se morfaler d'un coup tout le royaume, avec panache. Tout comme le lièvre de la fable qui avait trop attendu, il va se faire baiser au poteau. Le fragile mais rusé Henri III le convoque au château de Blois pour lui filer, lui dit-il, le secret de sa recette de clafoutis aux griottes. Il le fait radicalement extriper par les 45 soldats de sa garde personnelle, avant même que l'autre n'ait eu le temps de défourailler son cure-dent. Devant le cadavre du balafré, ce faux cul de Henri III aura d'ailleurs une phrase digne de Racine ou d'Alphonse Allais, que vous allez me souffler. Il est encore plus grand, mort que vivant. Le 30 avril, près de Plessis-les-Tours, pour la première fois depuis 13 ans qu'ils s'arrachent les couettes dans les batailles incessantes, les deux Henri vont tomber dans les bras l'un de l'autre. Pas pour faire de la lutte gréco-romaine, non, pour s'embrasser ou faire semblant. Le peuple, lui, crie « Vive le roi !» et même « Vive les rois !» En fait, comme d'habitude, il crie un peu n'importe quoi. Un jour « Vive Pétain !» et le lendemain « Vive de Gaulle !» Enfin, ça, c'est une autre histoire. La baraka, pour le moment, elle est surtout du côté d'Henri de Navarre. Le matin du 1er août 1589, au camp royal de Saint-Cloud, Henri III, quant à lui, savoure un bol de bouillon tranquillement assis sur sa chaise percée. Il l'ignore encore, mais c'est son avant-dernière dégustation. Car un certain Jacques Clément, moignillon ligueux, catholique donc, et mal intentionné, lui fait déguster un méchant coup de l'alliole dans le buffet, rendant par ce fait totalement inutile d'amener à terme l'accomplissement de sa grosse commission. Les moustaches en croix sur le carreau, le pauvre Riquet III trouve encore la force de gémir. « Ah, le méchant moine, il m'a tué !» Un roi sur son trône, c'est parfois peu de chose. Mais ce petit roi malchanceux, avant de chanceler sur ses talons aiguilles, avait eu suffisamment de choux pour sceller à Plessis-les-Tours l'unité retrouvée du royaume. Henri de Navarre est donc le successeur naturellement désigné, et la Ligue l'a dans le baigneur. Le tout-puissant Philippe II d'Espagne fournit alors un max de grisbilles et d'arquebuses au duc de Mayenne, qui est plus ligueux qu'un sang de punaise. Philippe II d'Espagne, qui n'a pas que du jus de betterave dans les castagnettes, rêve de chouraver le trône de France pour sa fifille Isabelle, petite fille de Henri II par sa mère. C'est à la fois merdique et tentant pour Henri. Et évidemment, ça coince un peu, car jamais les Espingauds n'ont été aussi puissants. Par contre, ça pourrait être de la chantilly, because une chier de cateau français, dont le duc de Mayenne, on le traxire de voir les danseurs de flamenco squatter le pays et d'être obligé de briefer du chorizo jusqu'à la fin des temps. Le 4 août 1589 à Saint-Cloud, Henri fait écho à cette réaction patriotique du peuple qui n'a l'air d'attendre que lui. Il dit à ses concitoyens: mes chers petits peloteurs de Chapelet, la religion romaine, vous vous gourez bien que pour moi, ça vaut pas une pibrade. Cependant, cette foi qui m'est étrangère, je vais faire un effort et essayer un bon coup de me la cloquer dans le citron. Je demande qu'à apprendre. De plus, je maintiendrai les garanties de mes prédécesseurs, aux réformés. Ils n'ont pas besoin d'avoir le traxir de finir comme des marrons sur le cul rouge d'une poêle trouée. On peut voir ici que ce fin stratège ne se mettait pas que des gonzesses dans la fouille. Le duc de Mayenne va donc se morfler une sanglante déculottée à Arques le 21 septembre 1589. Puis, comme il n'avait pas pigé, le 14 mars suivant, encore une belle mandale sur la poire, à la fameuse bataille d'Ivry. Henri lui fait bouffer son chapeau à plumes en lui disant « Ventre saint gris, mon gars, t'avais qu'à faire comme les autres, fallait te rallier à mon panache blanc. » Malgré le tabac qui fait partout, Henri n'est toujours pas roi de France. Il n'a pas encore pu s'embourber Paris. Et la France sans Paris, c'est comme un gigot froid sans moutarde, disait-il amèrement. Il prend un bide devant la capitale, ravitaillé par les espingouins du duc de Parme. Au bout de 4 mois de siège, il en a ras la barboteuse et se tire la queue entre les jambes. En janvier 1591, par ruse, il envoie des assiégeants déguisés en meuniers qui se font virer à coups de pompe dans les noix. C'est la fameuse journée des farines, où Riton, le premier, s'y est fait rouler. Finalement, il va de bide en bide. Il finit par entraver que s'il ne se décide pas à abjurer sa foi de rechef, mais cette fois-ci solennellement, sa couronne, il l'aura jamais. Les croquants en ont ras le fion, des guerres ruineuses, des impôts écrasants et de tout le toutim, mais ils veulent un roi catho. Gabrielle d'Estrée, la belle Gabi, insiste lourdement pour que son Riton abjure enfin un bon coup. Elle se voit d'ailleurs assez bien avec une couronne sur le cassis. « Vas-y, mon Riquet, » elle lui dit. « Nos cochoncetés, on les fera plus dans le péché désormais. On dira tout à Dieu, au vrai, à celui des cathos. Et il nous pardonnera, cette bonne blague. Il manquerait plus que ça, après tout ce qu'on a fait pour lui. » Avant d'abjurer pour la seconde fois, Henri avait envoyé une bafouille à sa gonzesse où il lui disait « Ma belle Gabrielle, c'est demain que je fais le saut périlleux. » Plus loin, évoquant les évêques, il ajoute « Ces gens-là m'ennuient. » Comme le remarqua si justement ce bon vieil athée de Voltaire, ces paroles sont-elles d'un bon catéchumène ? Tu l'as dit, Bouffi. Finalement, apparemment convaincu par tous, Riquet s'agenouille. Il tombe humblement sur ses rotules. Il jure devant la face du Dieu Tout-Puissant de vivre et mourir en religion catholique, de la protéger et défendre encore et contre tous au péril de son sang et de sa vie, renonçant à toutes les hérésies contraires. Ses potes ont du mal à le croire, voire à le suivre. Ce baratin, il l'a déjà débagoulé devant feu Charles IX et cette vieille araignée de Catherine de Médicis. Le pape n'y croit lui aussi qu'à moitié, après avoir été échaudé une première fois. Malgré son éminence, qui n'y va que d'une fesse, le sacre est toutefois célébré à Chartres le 25 février 1594. Paris ouvre enfin toute grande ses portes à Henri le 22 mars suivant. Le tenace duc de Mayenne, qui pige vite, mais faut lui expliquer longtemps, déguste une ultime avoinée en Bourgogne, à Fontaine Française le 3 juin 1595. En mars 98, le coriace duc de Mercœur, farouche ligueur replié en Bretagne, s'écrase enfin mollement. Le 2 mai suivant, le traité de Vervins ramène la paix entre les Français et les Espingouins qui se mettent à guincher partout ensemble flamenco et java. C'est alors que Riton fit l'un de ses plus beaux coups. Il signa l'édit de Nantes en 1598, par lequel catholiques et huguenots devaient arrêter enfin de se saccager le pif. Il mécontenta bien sûr les deux parties. Le bon roi Henri devint alors Henri le mal-aimé. Comme quoi on ne peut jamais contenter tout le monde et son père. Heureusement, il avait deux conseillers des meilleurs qui étaient loin d'avoir du mou de veau sous le plumet, Duplessis Mornay et le duc de Sully. Bien avant que les paysans n'embouteillassent la capitale avec leurs tracteurs, Sully allégea fortement leurs impôts et déclara tout net que j'attends, j'écoute. Oui, labourage et pâturage étaient les deux mamelles de la France. Et toc, un bon point pour Riton. Le bon roi Henri, de son côté, avait balancé un jour comme ça, mine de rien, en sortant de la messe. Tous les dimanches, je veux que chaque famille de mon royaume becte quoi ? La poule au pot. Ça aussi, ça avait été vachement médiatique. Là, même Sully lui avait dit « Chapeau, sire, excellent pour votre audimat !» Ce futé de Sully réussit même à faire payer un impôt à l'église, ce qui tenait du miracle. Il piqua, de même, un max de blé aux officiers royaux, qui voulaient transmettre leurs charges à leurs descendants, avec un nouvel impôt qu'il appela la poulette. Résultat, prospérité. On bâtit à Paris le Pont Neuf, la place des Vosges et l'hôpital Saint-Louis, ce qui vaut largement l'Arche de la Défense. Le premier mariage d'Henri fut annulé. Ça collait pas du tout avec Margot, qui avait un nid de frelons sous le Vertugadin et une fâcheuse tendance à l'occasion d'appliquer les vieilles leçons de Messaline. Il épousa l'Italienne Marie de Médicis, dont le principal mérite fut d'avoir ramené dans sa corbeille de mariage 10 kilos de faillots d'Italie, les fagioli, pour faire des cassoulets à son mec. Elle lui tricota aussi un beau lardon, qui devint plus tard Louis XIII. On ne s'étendra pas sur Marie de Médicis, si on peut s'exprimer par cette folle image. Cette reine hystérique et faiblarde, qui se fit plus tard brouter les diamants sur le cou, par les Consigny. Infatigable sur l'oreiller, Riton, toujours insatisfait, y faisait se succéder des maîtresses plus volcaniques les unes que les autres. Toutes adoraient l'osier et les colifichets qui mettaient le pays dans la mouscaille. La dernière en date fut Charlotte des Essarts, dite Lolotte les doigts fins, pour qui le bon Riquet faisait les pires des folies, ce qui avait le don de foutre la reine en pétard et le pays itou. Le 14 mai 1610, un obscur petit greffier de tribunal allait devenir célèbre à tout jamais. Il amplifia du coup considérablement la gloire de celui qu'il allait assassiner. Il s'appelait François Ravaillac. Il avait un laguiole bien aiguisé et poignarda allègrement le bon roi Henri, qui pour son malheur n'avait, lui, que de mauvais chirurgiens et pas encore d'antibiotiques dans son armoire à pharmacie. Après cette petite évocation perfide de la Marie, nous allons étudier de plus près son cas. Rien qu'ayant toute sa vie magnifiquement réussi les spaghettis à la carbonara, Marie de Médicis fut néanmoins une reine à chier. Elle a eu tout faux d'un bout à l'autre, mais personnellement, je l'adore, parce que c'est tout de même la première reine de France qui a eu l'idée de ramener les premiers faillots à son époux Henri IV dans sa corbeille de mariage. Sans cette géniale mémère, on n'aurait jamais connu le cassoulemout au confit d'oie. Fille de banquier, Marie vint au monde en 1575. C'est tout de même mieux que de pointer au chaume-du ou de jouer de la carinette à l'armée du salut. Ses vieux, François Ier, duc de Toscane, et Jeanne, archiduchesse d'Autriche, lui apprirent à broder, à coudre, à serrer les genoux quand elle était assise en face d'un chanoine, et à les ouvrir quand un gus viendrait lui proposer le maridat.
Mais voilà, personne ne lui proposait jamais de l'épouser. Il est vrai qu'elle était plutôt tarte, et que les mixtures de fientes de pigeon qu'elle se cloquait sur la hure avant de s'endormir pour se réveiller belle le lendemain n'arrangeaient pas vraiment les choses. Mais ses géniteurs chéris, en plus des banques, possédaient des entrepôts de blé, des kofios garnis de perlouses du Bengale et de diamants du Minas Gerais, ce qui finalement la mettait à l'abri des fins de mois difficiles et lui permettait de changer de slibard plusieurs fois par jour. Toutes ces babioles persuasives lui permirent de se dégoter un clampin dans le besoin qui lui proposa enfin de l'épouser en 1600. Il était temps. Elle approchait des 29 balais. Elle pesait près de 2 quintaux et les toiles d'araignée menaçaient sa boîte à ouvrage. Ce fringant prétendant fauché qui puait l'ail n'était autre que le roi de France, plus connu sous le nom de Henri IV. Elle l'épouse par procuration à Florence le 5 octobre 1600. Puis elle accoste en Méditerranée avec un bateau de papa chargé de pierreries, de grappas et de faillots. Puis rejoint Henri, son mari, à Lyon le 9 décembre. Le Béarnais l'embarque sur sa carrée, échange 3 phrases avec elle et se dit que ça va pas être du millefeuille. Tant bien que mal, il enjambe la grosse, qui, à ce qu'on dit, était bandante au pajot comme une poêlée d'amanite phalloïde. Le lendemain matin, il décarre ventre à terre vers le château de Verneuil pour y rejoindre Henriette d'Entragues, une greluche bousculée comme le TGV qui passait pour être sa maîtresse officielle. Faut croire que Riton s'occupait aussi de sa Marie, puisqu'elle donne naissance à un petit Salé, le dauphin Louis, en septembre suivant. Mais ça n'arrange pourtant pas du tout les bidons avec Henri. La reine est plantureuse, certes, ce qui plaît bien à l'époque, mais elle est aussi dépensière, pétardière, prétentiarde, soupaulée, rancunière et têtue, comme une porte de coffre-fort électronique. En un mot, bête comme une oie grasse qu'elle est, elle a du mal à se faire aimer par son entourage, et hélas aussi pour elle, par son mec. Comme elle n'entre avec Puig au français et le jactait de plus comme une vache espagnole, les maîtresses de Henri l'avaient surnommée la grosse balourde. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les rapports conjugaux ne sont pas encore au beau fixe, même si ce chaud lapin de Henri tricote encore 5 lardons à Marie. Par ailleurs, il est utile de préciser que Marie de Médicis est plus ou moins maquée à 2 aventuriers dont elle subit fortement l'influence. En effet, elle a ramené dans ses valdingues un certain Consigny et une dangereuse salope nommée Léonora Galigai. Ces derniers lui offrent un régime de bananes qu'elle n'avait plus qu'à éplucher pour balancer les peaux sous les semelles de Henri. Marie, de son côté, d'ailleurs, ne se gratte pas pour afficher ses opinions hispanophiles, sinon favorables à la paix avec la maison d'Autriche lorsque la guerre est décidée. L'ayant saumâtre d'être traitée de grosse banquière par la marquise Poutane Henriette d'Entragues et d'être considérée comme une sous-merde par le restant de la cour, elle met Henri au pied du mur et s'est filée dans le chou de faire reconnaître solennellement, sûrement encore une idée des Consigny, de faire reconnaître solennellement, disais-je, sa qualité royale par un couronnement, histoire de filer des cauchemars à ses détracteurs et de faire baver ses rivales comme 36 crapauds devant une tarte aux moustiques. Henri, qui ne tient pas à ce que le toit tombe sur la cabane du chien, lui dit « Cela va de soi, madame ». Il lui file pour marquer le coup la rivière de Diams qu'il avait promise à Henriette, qui manque s'étouffer de rage, comme prévu par la dodue, et lui fait cloquer une couronne de 3 kilos sur la théière, le 13 mai 1610, 10 piges après leur marida. Quel bel anniversaire ! 13 mai 1610. Il était temps. 2 jours après le couronnement,
Marie se retrouve veuve. 1610, comme on sait. Veuve après l'intervention de Ravaillac qui passait dans le coin pour se morfaler une glace à la pistache. Y a-t-il eu un lien de cause à effet entre le couronnement et l'assassinat? La Galigaille aurait-elle fait siffler un filtre démoniaque à la Marie pour lui faire armer le bras de l'affreux Ravaillac? Les chroniqueurs de l'époque prétendent en tout cas que rien n'autorise à dire que la reine fut plus qu'un instrument. Je répète, ça vaut la peine. Les chroniqueurs de l'époque prétendent en tout cas que rien n'autorise à dire que la reine fut plus qu'un instrument. Entravez ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, elle a eu ce qu'elle souhaitait. Malgré les larmichettes de crocodile qu'elle a versées quand on lui a appris que son mecton avait morflé 2 coups de sa cagne dans le battant. Tout en reniflant, elle demanda, inquiète, « On est sûr qu'il est vraiment mort ?» Le lendemain, Marie, qui n'avait jamais été boniche, entreprit tout de même de faire un grand ménage. Dès le 16 mai, appuyée par le duc d'Épernon, elle se fait octroyer la régence. Ça lui permet de virer ministres et conseillers de son défunt mari avec perte et fracas. Dans la foulée, en janvier 1611, elle lourde également Sully, en le priant d'aller téter ailleurs d'autres mamelles que celles de la France. Elle confie les affaires de l'État à ce rat de Consigny et à sa charmante Léonora, qui déjà s'en sont mis plein les fouilles. Leur gestion de l'État est si merdique et leur appétit si énorme que même les grossiums se révoltent. Belle occasion pour ressusciter la féodalité. Les États généraux de 1614 et le traité de Loudun en 1616 ponctueront cette revanche de classe contre la Marie, qui sent soudain passer un méchant courant d'air entre les quenelles. C'est à partir de là que la Marie se mélange les baleines de corset. Ne se contentant pas d'avoir été épouse blécharde, elle est aussi une dame totalement nasbrock. C'est Louis XIII qui est le dauphin. C'est pourtant en Gaston d'Orléans qui lui fait une lèche éhontée. C'est donc en Gaston d'Orléans qu'elle reconnaît un fils digne d'elle. Son fils Louis, elle lui a jamais refilé son téton à sucer, ne l'a jamais emmené avec elle à Disneyland et surtout l'a toujours prié de boucler son clapoir quand on débagoulait au conseil sur les affaires de l'État. Le jeune loulou, humilié et fumasse, s'était juré de lui faire bouffer sa fraise. Et il le fit. Le 25 avril 1617, il avait à peine 16 piges. Il fit d'abord trucider Consigny, qui avait même pas eu le temps de décommander sa leçon de tennis de l'après-midi. C'est un dénommé Vitry, capitaine des gardes, qui l'avait chargé du boulot. Ce fut un travail soigné, apprécié par le jeune Louis, qui en félicita son auteur à la sortie du Louvre. « Grand merci à vous, lui dit-il. Je suis roi à cette heure. » La foule, toujours enjouée dans ces circonstances, tailla le corps de Consigny en pièces et chacun voulut en emporter un petit morcif en souvenir pour amuser les enfants. Louis XIII aura beau expédier sa vieille en exil à Blois pendant qu'il gouverne avec Luynes, il n'en viendra pas à bout pour autant. Armand Jean Duplessis, ça vous dit quelque chose? Plus connu sous le blase de, mais oui bien sûr, Richelieu, avait suivi fidèlement Marie en exil à Blois, puis dans son prieuré de Cousset. Pour passer le temps, il y écrivit 2 œuvrettes désopilantes, défense des principaux points de la foi catholique et l'instruction du chrétien. Ces 2 pavés littéraires entrèrent illico au top des libraires et il gambergea qu'un jour ça vaudrait le jus de créer une académie française. Ce qu'il fit d'ailleurs dès le lundi suivant qui était son jour de congé. Pendant ce temps, Marie complote. Délivrée enfin par l'incontournable duc d'Épernon, Elle bat le tambour pour rassembler la noblesse, signe des traités à Loudun avec les grands caïds du royaume, allergiques à Loulou, et s'arrache les poils du schmutz pour rendre la vie impossible à son fils. Elle lui déclare même carrément la guerre en août 1620 et envoie une armée qui se fera écrabouiller par l'armée du roi au pont de Cé. Deux piges plus tard, le futé Richelieu réussit à réconcilier la mère et son fiston. Comme il n'avait pas du mou de veau dans la Sorbonne, le roi le fit siéger au conseil où il resta ministre jusqu'à la mort du beau Louis. En attendant, Marie, qui siégeait elle aussi au conseil, était jalmince comme une pintade devant l'ascension du cardinal. Elle encaisse plutôt mal que Césarin balance des vannes tous azimuts contre la maison d'Autriche. Elle met tout en œuvre pour lui faire scier les cannes par Louis XIII, qui, conciliant, promet à la vieille harpie de le lourder. Mais après deux plombes de jactance à Versailles avec le cardinal, Louis, qui vire de bord, lui livre ses ennemis, Chalais, Montmorency, Saint-Mars, qui à leur tour se feront décoller le cigare d'un coup de hache bien placé. La reine dut remettre les bouts vers l'exil, mais à Compiègne cette fois-ci. Tous ses potes étaient à présent en villégiature dans les cachots, où s'étaient fait raccourcir eux aussi le colbac, sans avoir pigé ce qui leur arrivait. Écœurée, escarapate de France quelques mois plus tard, pour s'installer à Londres, d'où elle essaye encore de monter une petite guerre afin d'aplatir son lardon une fois pour toutes. Les Rosbif, qui ne goûtent que modérément cet amour filial, la virent en 1641. En 1642, à Cologne, sa dernière planque, elle rend son ultime soupir. C'est d'ailleurs la seule fois de sa vie où elle rendit quelque chose. Cette reine, qui n'avait été épousée que pour son osier, calancha dans une bérésina pas croyable. Pour une frangine qui avait les bijoux en adoration et qui n'avait pété que dans des petites culottes de soie toute sa vie, elle n'avait pas eu de vase pour finir. N'oublions pas que pour le baptême du dauphin, elle portait sur sa roupane 3 000 diamants et 22 000 perlouses fines cousues par des fils d'or. De plus, elle arborait sur la calebasse un diadème étincelant, farci d'émeraudes, de diamants et de rubis, parée comme une dinde de Noël. Ce jour-là, les chroniqueurs prétendirent que la couronne chancela sur son caberlot, ce que la cour tint pour un mauvais présage. Avec les picaillons qu'elle sauva des griffes des Consigny, elle douilla tout de même de remarquables fresques qu'elle fit peindre par Rubens en son atelier et dans le palais du Luxembourg. C'était pas tout à fait un hasard si elle avait choisi Rubens. C'était le seul, comme on sait, qui aimait les grosses. J'espère que ces histoires de famille ne troubleront pas votre réveillon. Je vous remercie de votre écoute et je suis au regret de vous prévenir que pour le réveillon en question, ça sera aussi du podcast, parce que je cours pas vraiment après le virus. Merci à tous, bonne écoute et surtout bonne année.